S'étonnant de cette humeur, Frédéric déclara qu'il n'irait pas chez sa mère. Il emploierait ses vacances à travailler. À la nouvelle du départ d'Arnoux, une joie l'avait saisi. Il pouvait se présenter là-bas tout à son aise, sans crainte d'être interrompu dans ses visites. La conviction d'une sécurité absolue lui donnerait du courage. Enfin, il ne serait pas éloigné, ne serait pas séparé d'elle. Quelque chose de plus fort qu'une chaîne de fer l'attachait à Paris. Une voix intérieure lui criait de rester. Des obstacles s'y opposaient. Il les franchit en écrivant à sa mère. Il confessait d'abord son échec, occasionné par des changements faits dans le programme, un hasard, une injustice. D'ailleurs, tous les grands avocats, il citait leurs noms, avaient été refusés à leurs examens. Mais il comptait se présenter de nouveau au mois de novembre. Or, n'ayant pas de temps à perdre, il n'irait point à la maison cette année. Et il demandait, outre l'argent d'un trimestre, 250 francs pour des répétitions de droit fort utiles. Le tout enguirlandé de regrets, condoléances, chatteries et protestations d'amour filial. Madame Moreau, qui l'attendait le lendemain, fut chagrinée doublement. Elle cacha la mésaventure de son fils et lui répondit de venir tout de même. Frédéric ne céda pas. Une brouille s'ensuivit. À la fin de la semaine, néanmoins, il reçut l'argent du trimestre avec la somme destinée aux répétitions et qui servit à payer un pantalon gris perle, un chapeau de feutre blanc et une badine à pomme d'or. Quand tout cela fut en sa possession, « C'est peut-être une idée de coiffeur que j'ai eue, » songea-t-il, et une grande hésitation le prit. Pour savoir s'il irait chez Madame Arnoux, il jeta par trois fois dans l'air des pièces de monnaie. Toutes les fois, le présage fut heureux. Donc, la fatalité l'ordonnait. Il se fit conduire en fiacre rue de Choiseul. Il monta vivement l'escalier, tira le cordon de la sonnette. Elle ne sonna pas. Il se sentait prêt de défaillir. Puis, il ébranla, d'un coup furieux, le lourd gland de soie rouge. Un carillon retentit, s'apaisa par degrés, et l'on n'entendait plus rien. Frédéric eut peur. Il colla son oreille contre la porte, pas un souffle. Il mit son œil au trou de la serrure et il n'apercevait dans l'antichambre que deux pointes de roseau sur la muraille, parmi les fleurs du papier. Enfin, il tournait les talons quand il se ravisa. Cette fois, il donna un petit coup, léger. La porte s'ouvrit et sur le seuil, les cheveux ébouriffés, la face cramoisie et l'air maussade, Arnoux lui-même parut. « Tiens, qui diable vous amène ? Entrez !» Il l'introduisit, non dans le boudoir ou dans sa chambre, mais dans la salle à manger, où l'on voyait sur la table une bouteille de vin de champagne avec deux verres, et d'un ton brusque. « Vous avez quelque chose à me demander, cher ami ?»« Non, rien, rien !» balbutia le jeune homme, cherchant un prétexte à sa visite. Enfin, il dit qu'il était venu savoir de ses nouvelles car il le croyait en Allemagne, sur le rapport du sonnet. « Nullement, » reprit Arnoux, « quelle linotte que ce garçon-là pour entendre tout de travers. » Afin de dissimuler son trouble, Frédéric marchait de droite et de gauche dans la salle. En heurtant le pied d'une chaise, il fit tomber une ombrelle posée dessus. Le manche d'ivoire se brisa. « Mon Dieu » s'écria-t-il, « comme je suis chagrin d'avoir brisé l'ombrelle de Madame Arnoux. » À ce mot, le marchand releva la tête et eut un singulier sourire. Frédéric, prenant l'occasion qui s'offrait de parler d'elle, ajouta timidement « Est-ce que je ne pourrais pas la voir ?» Elle était dans son pays, près de sa mère malade. Il n'osa faire de questions sur la durée de cette absence. Il demanda seulement quel était le pays de Madame Arnoux. « Chartres, cela vous étonne ? Moi, non, pourquoi ? Pas le moins du monde ?» Ils ne trouvèrent ensuite absolument rien à se dire. Arnoux, qui s'était fait une cigarette, tournait autour de la table en soufflant. Frédéric, debout contre le poêle, contemplait les murs, l'étagère, le parquet, et des images charmantes défilaient dans sa mémoire, devant ses yeux plutôt. Enfin, il se retira. Un morceau de journal roulé en boule traînait par terre dans l'antichambre. Arnoux le prit, et se haussant sur la pointe des pieds, il l'enfonça dans la sonnette, pour continuer, dit-il, sa sieste interrompue. Puis, en lui donnant une poignée de main, « Avertissez le concierge, s'il vous plaît, que je n'y suis pas. » et il referma la porte sur son dos violemment. Frédéric descendit l'escalier marche à marche. L'insuccès de cette première tentative le décourageait sur le hasard des autres. Alors commencèrent 3 mois d'ennui. Comme il n'avait aucun travail, son désœuvrement renforçait sa tristesse. Il passait des heures à regarder du haut de son balcon la rivière qui coulait entre les quais grisâtres, noircis, de place en place, par la bavure des égouts, avec un ponton de blanchisseuse amarré contre le bord, où des gamins quelquefois s'amusaient dans la vase à faire baigner un caniche. Ses yeux délaissant à gauche le pont de pierre de Notre-Dame et 3 ponts suspendus, se dirigeaient toujours vers le quai aux Ormes, sur un massif de vieux arbres, pareil au tilleul du port de Montereau. La tour Saint-Jacques, l'hôtel de ville, Saint-Gervais, Saint-Louis, Saint-Paul se levaient en face, parmi les toits confondus, et le génie de la colonne de Juillet resplendissait à l'Orient comme une large étoile d'or, tandis qu'à l'autre extrémité, le dôme des Tuileries arrondissait sur le ciel sa lourde masse bleue. C'était par derrière, de ce côté-là, que devait être la maison de Madame Arnoux. Il rentrait dans sa chambre, puis, couché sur son divan, s'abandonnait à une méditation désordonnée, plan d'ouvrage, projet de conduite, élancement vers l'avenir. Enfin, pour se débarrasser de lui-même, il sortait. Il remontait, au hasard, le quartier latin, si tumultueux d'habitude, mais désert à cette époque, car les étudiants étaient partis dans leurs familles. Les grands murs des collèges, comme allongés par le silence, avaient un aspect plus morne encore. On entendait toutes sortes de bruits paisibles, des battements d'ailes dans des cages, le ronflement d'un tour, le marteau d'un savetier. Et les marchands d'habits au milieu des rues interrogeaient de l'œil chaque fenêtre, inutilement. Au fond des cafés solitaires, la dame du comptoir bâillait entre ses carafons remplis. Les journaux demeuraient en ordre sur la table des cabinets de lecture. Dans l'atelier des repasseuses, des linges frissonnaient sous les bouffées du vent tiède. De temps à autre, ils s'arrêtaient à l'étalage d'un bouquiniste. Un omnibus, qui descendait en frôlant le trottoir, le faisait se retourner, et parvenu devant le Luxembourg, il n'allait pas plus loin. Quelquefois, l'espoir d'une distraction l'attirait vers les boulevards. Après de sombres ruelles exhalant des fraîcheurs humides, il arrivait sur de grandes places désertes, éblouissantes de lumière, et où les monuments dessinaient au bord du pavé des dentelures d'ombre noire. Mais les charrettes, les boutiques recommençaient, et la foule l'étourdissait, le dimanche surtout, quand, depuis la Bastille jusqu'à la Madeleine, c'était un immense flot ondulant sur l'asphalte, au milieu de la poussière, dans une rumeur continue. Il se sentait tout écœuré par la bassesse des figures,